Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Ah, le joli mois de mai, le joli mois frisquet. On va pouvoir retourner eh bien, dans les salles juste avant l'été. En revanche, aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de films, la semaine dernière, qui sont sortis. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour.
Et c'est pour ça qu'eh bien, le sommaire est assez étriqué. Alors, de quoi allons-nous parler ?
Alors moi, je vais parler d'une comédie hollywoodienne qui s'appelle Un grand mariage. Voilà. Et puis pour rester dans la thématique du mariage, étant donné qu'aujourd'hui se célèbre le premier mariage gay à Montpellier, je vous ai préparé un petit blind test mariage.
Et toi, Manu, tu as vu un film de la sélection officielle de Cannes.
Le dernier film du réalisateur danois Nicolas Winding Refn, Only God Forgives.
Et donc vous en discuterez, vous ferez un petit débat pour savoir si c'était une posture esthétique ou si il y avait autre chose dans ce film. Et puis on va plutôt commencer avec Cannes, un peu comme chaque année depuis que Cinérama existe. Il y a un montage spécial palmarès de Cannes qu'on va écouter.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Tous les bijoux, enfin presque, vont retrouver leur coffre-fort.
Mr. President,
Steven Spielberg.
If you agree, we are going to welcome the members of your jury.
À vos ordres.
La scénariste, réalisatrice, productrice britannique.
Lynn Ramsey.
Le scénariste, réalisateur et producteur roumain.
Christine Manju.
L'acteur autrichien.
Christoph Waltz.
La réalisatrice japonaise.
Naomi Kawase.
Le scénariste, réalisateur, producteur taïwanais.
Maestro Ang Lee.
L'actrice indienne.
Vidya Balan. Daniel O'Toole. Nicole Kidman.
Fini la bise à Spielberg.
J'ai pris déjà le parti de l'oublier.
Après le court-métrage, le premier long, voici la caméra d'or.
Je m'excuse d'être aussi direct. Avez-vous eu l'impression que la place était encore chaude?
Les rapports de ces personnages évoquent des thèmes essentiels qui nous concernent et qui nous ont touchés. L'enfance, l'immigration, les rapports de classe, la crise économique. C'est donc au premier tour et à l'unanimité que nous avons choisi de primer Anthony Chen pour Ilo Ilo.
C'est la première fois qu'un film de long métrage de Singapour remporte ici un prix à Cannes. Un grand merci.
Suivant.
Nous allons enfin découvrir leur palmarès.
Pourquoi le cacher ?
Alors, Monsieur le Président, quel est le prix d'interprétation masculine ?
Bruce Dern pour Nebraska d'Alexander Payne.
Je veux la fille.
Qui a gagné le prix d'interprétation féminine ?
Best actress this year.
Le prix d'interprétation féminine revient à Bérénice Bejo pour son rôle dans Le Passé de Asghar Farhadi.
Je m'attendais pas du tout. C'est nul de dire ça.
Oui, on n'en tirera pas plus.
Je crains que vous ne m'ayez mal comprise.
Oh, attendez. Asghar, I love you so much and I love this movie so much.
Mais c'est quoi ce charabia ?
Pour remettre le prix du scénario, j'invite une cinéaste, une actrice intrépide et libre, une italienne, Asia Argento.
Radio Ghana Swinda, bonjour !
Le président du jury regrette que les gens aient oublié comment raconter une histoire. Aujourd'hui, les histoires n'ont plus ni début, ni fin. Elles sont plutôt un début qui n'en finit pas de commencer.
Tu veux une cigarette ?
Parions que celui qui va me rejoindre ce soir aura su raconter une histoire captivante du début à la fin. Une histoire dont on ne sort pas indemne.
Et on va ranger la moquette.
C'est ça qu'on attend d'un scénario.
Ça met de la fantaisie.
Qui a remporté le prix du scénario?
The best screenplay. Le prix du scénario est décerné à Jian Shanke pour Tian Zhudong, A Touch of Sin.
Le public va en raffoler. Il s'agit vraiment d'une occasion à saisir.
Poursuivons cette soirée avec le prix du jury. Pour le remettre, j'appelle Rossi de Palma.
Je vois pas ce qui peut vous affoler.
Toute notre vie,
Nous sommes jugés pour notre façon de marcher, de rire, de pleurer, de s'habiller, d'aimer, de danser, de parler. Les films, c'est comme la vie. On ne peut pas plaire à tout le monde.
Alors là, ça ne me dérange pas du tout.
Qui a remporté le prix du jury ?
Le prix du jury est décerné à Tel père, tel fils de Kore Eda Hirosaku.
C'est des choses privées, mais je veux remercier ma femme qui m'a fait père d'une petite fille, qui m'a donné l'idée de ce film.
Oh, que c'est romantique.
Qui a gagné le prix de la mise en scène?
Le prix de la mise en scène est décerné à Amat Escalante pour le film Ellie. Je ne m'attendais pas à ce prix. Je tiens à remercier à ce jury courageux.
J'estime que le public a le droit de tout savoir, le meilleur et le pire.
Je vous propose de regarder quelques images d'un film de légende.
Tu sais que tu me sidères, Jean-Claude. Ça fait 2 jours que t'es là, et t'es déjà sur un coup.
Écoute, Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Qui a remporté le grand prix du 66e Festival de Cannes?
Le grand prix est remis
Inside Llewyn Davis,
Inside Llewyn Davis des frères Coen.
How about that, Kim Novak?
Wow. Dis donc, Kim Novak en personne. Quel honneur. Malheureusement, les frères Cohen sont coincés à New York et n'ont pas eu le temps de répliquer.
Vous en êtes sûr? Il n'a pas pu venir.
Oh là là.
Si on passait aux choses sérieuses.
Ça suffit.
Voici le moment tant attendu. La Palme d'Or. Pour la remettre, merci de faire un accueil magnifique à la magnifique Uma Thurman.
Je veux pas entendre ça, je veux pas entendre ça.
Je
veux pas entendre ça, je veux pas. Je veux pas.
Bon ben ça va.
Well, the jury has taken. Eh bien, le jury a pris la mesure exceptionnelle de reconnaître les réalisations de 3 artistes dans le choix de la Palme d'Or. Il s'agit de Adèle, Léa et Abdelatif Kechiche.
En fait, si tu veux, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Sartre, en fait, il a fait une petite révolution intellectuelle qui a eu pour mérite de libérer toute une génération. Faire qu'on peut décider soi-même de sa vie sans aucun principe supérieur. Moi, j'étais hyper Sartre dans mes années lycée.
C'est vrai ?
Ouais. Ça me faisait du bien. Surtout dans l'affirmation de ma liberté et de mes propres valeurs. Tu vois. Et puis aussi son exigence dans l'engagement. J'adhère complètement.
Ouais, c'est un peu comme Bob Marley, quoi.
Ouais.
Presque.
Je sais pas, je suis pas sûre.
Moi, je suis presque sûre. Bah, les idées, elles se rejoignent un peu. Tu vois, le son Get Up Stand Up.
Bah ouais, je vois.
Bah, je trouve qu'il est engagé.
Ouais, c'est vrai.
C'est pareil que Sartre. C'est un peu un philosophe, c'est un prophète, c'est la même chose. En tout cas, j'espère que tu voudras bien m'aider pour mes dissertes de philo, parce que t'as l'air...
Bah écoute, quand tu veux.
Vous avez fait des erreurs. Hein. Merci beaucoup.
Voilà, c'était Abdelatif Kechiche, donc le réalisateur de La vie d'Adèle. Et puis, ben, c'était un grand prix, une palme d'or collective, donc avec les deux actrices qu'on a entendues dans un extrait de La vie d'Adèle qui ne sortira malheureusement qu'au mois d'octobre. Je dis malheureusement parce que c'est bien, finalement, quand un film gagne, d'avoir tout de suite un avis sur ce film. Mais non, on ne l'aura pas.
Et oui, c'est pas très bien joué, quoi. Ils auraient pu surfer sur la vague et en profiter, un petit peu comme Le Passé, qui est sorti pratiquement en même temps que ça venu à Cannes.
Bon, après ça, ils ne pouvaient pas prévoir d'avoir aussi la Palme d'Or. Enfin, il y a très peu de films en fait, qui sont à Cannes et qui sortent en même temps. Et à noter que Kechiche, La vie d'Adèle, fait parler de lui pour les conditions de tournage, essentiellement dans la presse. Voilà, il y a encore un article dans le Canard Enchaîné de ce jour. C'est Cinérama qui continue avec Le Mariage.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
Alors la saison des mariages commence et avec elle la saison des films de mariage. Alors on a eu mariage à la grecque, mariage à l'anglaise, mariage à l'indienne, même mariage à l'islandaise. J'en passe des meilleurs ou plutôt des moins bons et moi je me suis retrouvée pour ma part devant un grand mariage. Je suppose qu'ils avaient dû épuiser le stock de titres. Alors précisons quand même que j'étais partie pour voir des mains coupées dans Only God Forgive, donc j'étais assez frustrée de me retrouver devant des histoires d'héritage, de rupture et de femmes enceintes. En effet, au premier abord, le scénario laisse présager une version Hollywood de la comédie Sundance Another Happy Day, que j'avais d'ailleurs chroniqué ici il y a un an. Même pitch de départ, mariage donc, même unité de lieu, la grande maison familiale perdue dans les bois, donc très difficile à fuir, et même obstacle surgissant la veille de la cérémonie, les parents des mariés qui se déchirent, les divorcés qui regrettent le bon vieux temps, et de jeunes adultes pas forcément mieux dans leur peau que leurs aînés.
Il y a quelqu'un ?
Oh, alors il l'a épousée.
Si tu insistes.
Oh, Danny. Oh.
Ellie, bonjour.
Hey, mon ex-femme est là.
J'ai failli ne pas te reconnaître. Tu es si...
Inattendu.
Je ne supporte pas cet endroit.
Ma petite chérie.
Papa.
Tu es rayonnante.
Toi, t'as grossi, non ?
Alejandro, tes parents adoptifs, Don et Ellie, ne sont pas vraiment catholiques.
Oui.
Sa mère biologique est une catholique très pratiquante. Nous venons d'apprendre qu'elle viendra à notre mariage.
Eh oui.
Oh non.
Sa mère biologique est persuadée que le divorce est un péché mortel.
L'enfer assuré.
Elle a quitté la Colombie pour découvrir que j'ai menti et que j'ai été élevée par des païens depuis 15 ans.
Sans vouloir vous vexer.
Pas de problème.
Faites comme si vous étiez mariés pendant ce week-end, ça va pas vous tuer.
S'ils sont mariés, je suis quoi, moi ?
Ma maîtresse. Qu'est-ce que j'ai fait, bon sang ?
Demande à ta femme.
S'il vous plaît.
Quoi ?
Et tu fais quoi ?
Estos son mis otros papas, Don et Ale Griffin.
Estu et Casa.
Oui, mi casa, et su casa.
Que casa tan elegante.
Oh, si, c'est décoré avec... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que... Oui, j'ai beaucoup de goût.
Bienvenue au Whitemore Country Club. Je vais m'occuper de vous pendant cette soirée.
Je prendrai un filet mignon.
Ça m'étonnerait.
Jared a pris de maman et moi j'ai gagné le gros lot en prenant tout de toi.
Tu es tombée amoureuse de Don dès que je te l'ai présenté.
Bah alors pourquoi tu ne m'as pas écrasée avec ta voiture, hein? Pourquoi?
Tu étais ma meilleure amie.
Ça fait vraiment...
Oui.
Bon, alors comme je disais tout à l'heure, en fait, bizarrement, les bons moments du film ne sont pas du tout dans la bande-annonce. En fait, tous les gags drôles n'y sont pas. Voilà, ce qui en général n'est pas le cas. Alors, passé la méfiance première, il ne suffit que de quelques scènes pour découvrir qu'on est heureusement devant le bon versant de la comédie américaine, ce qui ne s'entend pas en effet, à savoir eh bien celle qui parle mal, qui n'a pas peur des situations graveleuses et qui détourne les habituels schémas scénaristiques. On confronte ici deux générations de comédiens, les mythiques De Niro, Diane Keaton, Suzanne Sarandon et Robin Williams d'un côté, et les jeunes pousses de l'autre, un peu délaissées par le metteur en scène. Comme d'ordinaire, dans les films où se côtoient une nuée d'acteurs, eh bien certains tirent leur épingle du jeu, d'autres parviennent à créer des liens particulièrement crédibles avec leurs partenaires, et d'autres encore sont totalement oubliés par le monteur. Dans le cas présent, Diane Keaton s'avère cabotiner beaucoup. Catherine Hegel, que j'ai trouvée à ma grande surprise très bonne actrice, est particulièrement touchante et elle joue avec une retenue surprenante, tandis que les seconds rôles sont souvent restreints à l'état de caricature. Alors on retiendra tout de même que tout aspect dramatique est systématiquement évacué au profit d'un cynisme qui est toujours le bienvenu dans des films façonnés par l'usine hollywoodienne et qu'il règne une curieuse atmosphère très hippie dans ce film qui se départit de l'habituel puritanisme américain. Alors je pense notamment au personnage de Niro qui recouche avec son ex-femme, laquelle est elle-même la meilleure amie de sa nouvelle épouse, mais tout le monde prend ça à la légère. C'est un film garanti sans dépression, sans suicide, sans larmes, mais qui reste quand même assez humain. Alors si vous voulez vous vider la tête, bah, vous aurez au moins le plaisir de voir avec ce grand mariage un film léger qui patauge pas pour autant dans les bons sentiments. Voilà.
Bon,
donc c'est pas obligatoire, hein. Voilà, vous ne raterez rien, mais ça ne sera pas un supplice non plus, j'ai survécu à ce film. Et on va continuer avec un blind test spécial mariage. Et alors là, je commence fort avec vraiment le top du top du film Mièvre et Cucu. Quoi.
Allô, Georges.
Bonsoir, beauté. On s'amuse bien?
Pas particulièrement, mais j'ai fait ce que j'étais venue faire.
Tu les as fait rompre?
Non, j'ai dit adieu.
Bravo, je suis fier de toi. Mais je serais encore plus fière si tu dansais.
C'est de grands projets côté danse. Accorde-moi 30, 35 ans.
La détresse, l'exquise tragédie, le grand mélo hollywoodien. Oh. Je t'imagine parfaitement assise seule à ta table dans ta robe lavande.
Je t'ai dit que j'avais une robe lavande.
Les cheveux relevés, ton gâteau intact dans ton assiette. Probablement en train de pianoter du bout des ongles sur la nappe de lin blanc.
comme tu le fais toujours quand tu flippes vraiment. Peut-être même les regards de tous ces ongles et te dis-tu, mon Dieu, j'aurais dû arrêter de comploter et aller me faire manucurer. Mais c'est trop tard.
Georges, je ne t'ai jamais dit que j'avais une robe lavande.
Et non, en effet, mais... C'est Rupert Everett qui a décidé, qui a trouvé la couleur de sa robe à Julia Roberts. Et vous, vous avez trouvé ?
Oui. Le mariage de mon meilleur ami. Un film que j'ai vu, en plus.
Bah oui, oui, bien
oui
sûr.
Je crois que tout le monde l'a vu, malheureusement. Bon, c'était un petit peu inévitable en 98 de ne pas le voir. Voire 96,
je regardais la Coupe du Monde, moi, en 98 essentiellement. Mais pas les films de mariage, non ? Allez, on poursuit.
Alors, on va poursuivre avec un film de non-mariage, pour le coup. Largement meilleur, cette fois.
Bonjour. Je cherche Pierre-Yves.
Ah, c'est la table juste là.
Merci. Bonjour, je suis là.
Ne dites rien. On a chatté toute la nuit, on a parlé mariage, gamin même, je suis sûr. Donc, pour gagner du temps, le mariage, non, le baisage, oui. Voilà.
Bah, éventuellement, ouais. Alors, ça vous embête pas si on fait ça avec deux, trois copains ? Bon, parce que le cul à deux, enfin, je sais pas vous, mais moi j'en ai fait le tour. Le mieux, c'est à quatre, surtout quand les mecs commencent à se rouler des pelles. Ça m'excite.
Ah, ouais. Oui, je te présente Emmanuel, c'est ma petite sœur. Et Louis, tu travailles avec moi.
Bonjour.
Alors, vous avez fait un peu connaissance ?
Un petit peu, comme ça.
Est-ce que tu as acheté pour des photos, tu te souviens ?
Manu, encore trouvé ?
Oui. Prête-moi ta main.
C'est tout à fait ça, avec Charlotte Gainsbourg et Alain Chabat. Sur justement un homme qui veut faire semblant d'être marié avec Charlotte Gainsbourg, qui ne va pas lui faciliter la vie. Alors là, le classique du classique.
Rebonsoir.
Je suis vraiment désolé.
Non, vous n'y êtes pour rien, on a du mal à s'en débarrasser.
Oui. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait ? On se planque un peu par ici avant de redescendre.
C'est une idée. Je n'ai pas l'habitude de me planquer, mais je peux me planquer s'il faut se planquer. Et vous, vous vous planquez souvent ?
Non, non. En principe, je me considère pas comme un planqué.
Ah, bon. Eh bien, entrez, vous planquez. Et puis on verra.
D'intéressantes considérations autour du plancage, du planqué, de la planquée. Manu a encore trouvé.
Ça doit être super bon, film de mariage.
Ouais, bizarre.
En fait. Mais je suis marié.
Le mariage, ça traînait, c'est
pour
ça.
Je suis marié, plus ou moins. Donc, c'est quatre mariages et un enterrement.
Tout à fait. Et pour finir, maintenant, un extrait extrêmement drôle d'un film sur plutôt ce qui se passe avant le mariage.
J'aimerais vous dire quelque chose que j'ai préparé ce soir.
Père, vas-y.
Bonjour. Sacrée arrivée, hein. Ça doit être pour ça qu'on l'appelle Sin City. Vous le savez peut-être pas, mais je me considère un peu comme un solitaire. J'ai tendance à me voir comme une meute d'un seul loup. Mais quand ma sœur a amené Doug à la maison, j'ai senti qu'on était proches. Et ma meute d'un loup est devenue une meute de deux loups. Et donc nous étions deux loups dans la meute. Avant, j'étais seul dans la meute, et puis Doug m'a rejoint. Je me suis dit, mais ça alors, est-ce qu'on pourrait ? Et maintenant, ça y est, j'en suis sûr. Je viens d'ajouter deux mecs loups de plus à ma meute.
C'est clair. Très bien.
On est quatre loups, courant dans le désert, côte à côte, à Las Vegas, cherchant stripteaseuses et cocaïne. Alors ce soir,
santé.
Je porte un torse.
Qu'est-ce que tu fais avec ça ?
Ah. Bruno avait trouvé en premier, c'était
Very Bad Trip.
Tout à fait, c'était Very Bad Trip.
Avec le 3 qui sort, oui.
Oui, en effet, voilà.
Bravo.
Et encore désolé pour la piètre qualité sonore de ces sons. C'est vraiment pas de ma faute.
Bon, d'accord, on en discutera de tout ça. On va t'inscrire quand même une formation. C'est Cinérama qui continue avec la sélection officielle de Cannes.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule,
Cinérama,
je suis allergique,
sur Divergence FM.
Avec donc Only God Forgives, donc le nouveau film de Nicolas Winding Refn, donc le groupe gagnant de Drive Récidive pour un film assez radical qui risque d'en surprendre plus d'un. Donc ne vous attendez pas à un Drive 2, si c'est le cas, la douche froide est assurée. Drive était vraiment un splendide exercice de style qui parvenait à transcender sa violence graphique et son minimalisme grâce à une histoire d'amour plutôt touchante. Only God Forgives déroute dès ses premières images hypnotiques. Bienvenue à Bangkok et bonjour les fausses pistes. Le début annonce le film de boxe thaï, plein de sueur et de virilité. Puis un personnage malfaisant apparaît. Il est d'ailleurs tellement outré qu'il semble une incarnation du mal, une sorte d'abstraction, un type le plus mauvais à l'état pur. Enfin bon, un type qui n'a qu'une envie, se taper une jeune prostituée et la torturer ensuite, comme ça, pour le plaisir. Une pulsion peu courante, en somme. On pense alors à une version asiatique de Seven ou du Silence des agneaux. Eh bien non, encore perdu, car ce psychopathe va se faire sauvagement assassiner et venger donc par le père de la victime, qui est utilisé par un flic retors et impassible. Foudrage d'apprendre le décès de son fils préféré. Voilà qu'arrive la mère, impressionnante et Catherine Scott Thomas est méconnaissable, qui est à la tête d'une organisation mafieuse. Elle a bien décidé de se venger et c'est parti pour le film de vengeance basique. Et pendant ce temps, Julian, donc le frère du taré, tenancier d'un club de boxe et dealer notoire, hésite à agir. En fait, il reste un personnage totalement impassible, qui ne fait absolument rien pendant le film.
Je sais que c'est difficile. Ton frère vient de mourir. T'as eu celui qui a fait ça.
C'est pas aussi simple que ça, maman. Il n'y avait pas qu'un seul type dans le coup quand Billy a été tué.
Qui d'autre ?
Un flic.
Inverse un peu les rôles. Ton frère aurait trouvé ton assassin et il m'aurait apporté sa putain de tête sur un plateau !
Je vais faire un tour en enfer.
Drôle de film hein, et drôle de climat d'ailleurs. Winding Refn s'empare d'un récit quand même débile, pas si éloigné que ça de certains films de baston avec Steven Seagal. Et le transforme en gros trip sensoriel d'une beauté visuelle souvent sidérante, une sorte de thriller mental entièrement régi par des pulsions de mort. Refn cite Dieu dans le titre mais ne filme que l'enfer. Ce polar exotique est travaillé par des dispositifs proches du cinéma expérimental. Les acteurs ne jouent pas, ils posent. Ils sont filmés comme de pures abstractions, des objets mouvants. Au mieux, ils sont le véhicule d'un symbolisme quand même appuyé. La mère castatrice, un peu sorcière sur les bords, qui rappelle beaucoup celle de... qu'avait filmé dans le film de Sailor et Lula, la mère de Lula dans Sailor et Lula. Nicolas Winding Refn filme non pas des personnages de chair et de sang pour qui on éprouverait de l'empathie, mais des marionnettes intronisées dans un décor cauchemardesque. Le réalisateur de la trilogie Pusher pousse une certaine idée du maniérisme à son paroxysme, à tel point que l'on finit par se demander si tout cela est bien sérieux. L'hypothèse assistée parfois à une autoparodie, volontaire ou non, n'est pas à écarter. La ringardise de certains dialogues laisse à penser que le Danois s'amuse avec les clichés des séries B bourrines. D'ailleurs, la mythique réplique à un moment « Tu sais te battre ?» m'a plongé dans la perplexité la plus totale. Refn se foutrait-il littéralement de notre tronche ? J'en vois déjà certains gloser sur la profondeur métaphysique du film, dresser une liste de tous les symboles sexuels qui défilent et édifier les thématiques du réalisateur. Dit comme ça, vous pouvez penser que je n'aime pas le film, mais au contraire, je trouve que c'est un film assez amusant, en fait. Only God Forgives est un mix fascinant, culotté, parfois indigeste, de Michael Mann, première période, Gaspar Noé et David Lynch, du pur cinéma de mise en scène qui affiche fièrement son côté ostentatoire. La lumière à forte dominante rouge sublime des décors impressionnants qui nous emmène dans un autre monde, un univers glauque, ultra-violent, où les sentiments n'existent pas. L'incroyable synergie qui habite le film donne lieu quand même à des séquences que j'ai trouvées géniales, comme la scène de torture où le flic demande aux filles présentes, des prostituées, de fermer les yeux. Ça donne une espèce de scène que je trouve complètement hypnotique, un moment de pure folie, une idée de cinéma comme on en rencontre peu. Le problème, c'est que cette proposition singulière d'un cinéma tout entier dédié aux sensations et qu'il ne touche pas, il n'aime pas du tout. On regarde cet objet impressionnant avec un détachement, un peu comme quand on visite une expo d'art contemporain où entre respect, fascination et incompréhension, rien ne transporte vraiment. Et justement, c'est le contraire de ce que propose David Lynch, chez qui l'émotion est à la source même de ces dispositifs formels, souvent plus intuitifs que réfléchis. Refn pêche par un excès de virtuosité et, plus gênant, une auto-célébration de son talent. Un film que je trouve très personnel, très fort, mais souvent à un but de sa personne. Et un détail marrant, c'est que Ryan Gosling, qui n'est pas le personnage central du film, est un peu un argument, je dirais, publicitaire du film. C'est un ectoplasme qui traverse l'écran, qui ne dit que 4 phrases et qui s'en prend plein la tronche, en fait.
Mais qu'est-ce qu'il est beau, quand même. Voilà. Non.
Oui. Son strabisme divergent commence à se voir, quand même, là.
Ah. C'est... Tu as noté ça, ok. Et sinon, tu ne l'as peut-être pas soulevé, mais il y a quand même une ultra-violence, non hein. Interdiction moins de 12 ans, mais aurait pu être...
Il aurait pu être interdit moins de 16 ans, puisque j'ai amené mon fils. Et la séquence, notamment, de torture, ou avec des épingles...
Qui perfore des tympans et des yeux. Je pense que je vais appeler la DAS, hein, parce que moi j'avais un grand garçon de 27 ans avec moi qui s'est caché les yeux. Hein. Donc.
Transperce les
je pense
les
que ton fils à toi a dû avoir peur.
Les cuisses, les mains, les yeux et les oreilles. Voilà.
Oui, petite référence bunuelienne d'ailleurs.
Mais la scène est très belle.
Sur l'œil.
D'accord.
Elle est pas si insoutenable que ça, déjà, parce que je trouve qu'il a une façon de filmer la violence où elle est assez hors champ. Et cette. Elle a un côté onirique en demandant justement à ses filles de fermer les yeux et aux hommes de bien regarder en revanche.
Oui, non, mais ça, moi ça me donne envie en tout cas. Hein, puis ce côté mélange entre alors James Gray, Lynch et.
Non, pas James Gray, Michael Mann. Je pensais à Michael Mann, période Sixième Sens. Un côté Gaspard Noé aussi. C'est-à-dire qu'avec les qualités, les limites de ce genre de cinéma purement, purement formel.
Gaspard Noé qui le remercie, il me semble d'ailleurs, dans le générique de fin. Oui.
Tiens donc.
Enfin.
Ah bon ?
Moi, en tout cas, je suis pas du tout d'accord avec toi, Manu. Enfin, pas du tout d'accord, juste sur le tout. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de voir le film le plus prétentieux de 2013 jusqu'à présent. Et en fait, j'ai eu l'impression d'être devant le film d'un petit Européen qui avait voulu faire un film asiatique. Donc, c'est-à-dire que pour rendre hommage peut-être à la célèbre lenteur asiatique, il a demandé à tous ses personnages de faire tous leurs mouvements très lentement, y compris quand ils se grattent le nez. Et résultat, Ryan Gosling fait un peu attardé mental, comme ça, avec ses bras ballants, il marche comme ça au ralenti. Alors après, il a aussi voulu... Oui, ça c'est clair que c'est totalement volontaire et assumé. Le problème, c'est qu'il met aussi un plan sur deux au ralenti, donc ralenti plus ralenti, ça fait beaucoup. Le générique en thaïlandais, c'est purement prétentieux. Il y a un petit côté un peu giallo, j'ai trouvé, ça m'a surprise que tu le relèves pas, avec comme ça, beaucoup d'éclairage, un coup la scène est toute bleue, un coup toute rouge. Moi j'ai trouvé que c'était même trop d'ailleurs, ça faisait limite fête foraine, toutes ces lumières dans tous les sens, il y avait beaucoup trop. Comme tu l'as dit, en effet, les personnages posent tout le temps. Alors bon, je pense qu'on a une caméra, ça sert à filmer le mouvement aussi, c'est un peu dommage de les laisser comme ça, totalement figé. Non, moi j'ai vraiment été déçue, même si j'ai pas non plus détesté le film. Je pense que la mise en scène est très belle. J'ai été frustrée par les personnages qui restent caricaturaux, alors que j'aurais aimé qu'on pousse un petit peu plus loin l'analyse. Notamment le personnage de Ryan Gosling, qui est extrêmement intéressant, ce personnage totalement impuissant, totalement castré. Et le fait justement que lui ne soit pas le héros, mais que tout le cheminement du film arrive à l'avènement d'un autre héros, qui est finalement l'ennemi de base. Et ça, c'est presque une réflexion en fait sur la construction du scénario et sur le mythe du héros dans les films. Voilà.
Bien, merci Marine Only God Forgives. C'est sorti la semaine dernière et ça passe à peu près dans tous les cinémas, qu'il s'agisse de la VF,
mais en
de la
VF au Gaumont Comédie uniquement.
Oui.
Bon, vu le peu de dialogue, c'est pas très grave.
C'est pas fou.
Cinérama.
Ça ne me gêne pas si je prends quelques petites notes.
Eh bien, l'agenda sera très court. C'est demain à l'Utopia. C'est une soirée unique à 20h30 ayant pour thème peuple et musique avec un duo de sons percussionneurs. Alors, ça, c'est un jeu de mots. Hein. Et donc, c'est avec deux percussionnistes. Et puis ensuite, un documentaire Roots Tour de Claude Sicre. Et Claude Sicre, ça doit être le fabuleux troubadour, me semble-t-il. Oui. Voilà. Et puis, à noter aussi que ce sera. Alors, c'est les 20 ans ou les 30 ans du
Diagonal. Les 30 ans.
Les 30 ans.
Les 30 ans.
Voilà, ouais. C'est ce samedi et. Par contre,
au parc Montcalm. Voilà, c'est au parc Montcalm, il y aura des concerts, il y aura une démonstration de danse indienne et il y aura Alex Terror qui viendra mixer des musiques de films à partir de minuit et demi, me semble-t-il.
Avec des réalisateurs invités, notamment les amis donc,
oui,
d'Antoine.
Oui, il y a un film surprise aussi qui sera projeté. Ouais. Et il y a, comment il s'appelle, qui vient
Sergi Lopez.
Sergi Lopez.
Et Tony Gatliff, a priori. Et puis, bah voilà, c'est fini.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Oui, je voulais juste rajouter que pour Cannes, au prix de la mise en scène du prix Un Certain Regard, c'est L'Inconnu du Lac, réalisé par Alain Guiraudy, qui sera bientôt là à Montpellier.
Et à suivre, l'émission 24 notes secondes sera cette semaine consacrée aux films de monstres. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.